Il est 6h40. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara, bonjour à tous.
Le projet de loi agriculture et alimentation, ouais. Jacques, est débattu cette semaine à l'Assemblée.
Voilà, et je vous propose une petite digression sur le cannibalisme, puisque à l'ère de la production industrielle de la viande, certains voient la frontière symbolique de l'anthropophagie s'estomper. Merci Clara Le Coq-Réal, on vous retrouve à 8h pour un nouveau journal.
À tout à l'heure.
Le journal des idées, Jacques Munier.
Et oui, c'est la thèse défendue par l'anthropologue Monder Kilani dans un livre paru au Seuil sous le titre « Du goût de l'autre, fragment d'un discours cannibale ». Philippe Douroux l'a rencontré pour Libération au Musée de l'Homme dans les salles de l'exposition Néandertal, ce lointain ancêtre que l'on soupçonne d'anthropophagie. Avec une grande prudence, le cartel de l'exposition présentant des os humains entaillés et brûlés, retrouvés dans la grotte de Krapina en Croatie, indique que la présence sur plusieurs ossements de stries faites par un couteau en pierre et de traces de calcination suscitent la controverse. Ces traces résulteraient d'un traitement complet des corps, désarticulés et décharnés intentionnellement dans le but d'en prélever la chair. Longtemps, commente le journaliste, le cannibalisme a permis de tracer une frontière entre l'autre et nous, le sauvage et le civilisé. C'est ce marquage symbolique que s'emploie à déconstruire Monder Kilani comme l'un des nombreux malentendus culturels qui ont caractérisé la rencontre des Occidentaux avec les peuples indigènes et l'anthropologue de renverser la perspective. Dans les sociétés traditionnelles, écrit-il, le lien était sacré, les interdits religieux et les tabous alimentaires imposaient de n'abattre un animal que selon un rituel strict, de ne pas consommer certains animaux ou certaines parties des animaux, de modérer la chasse, etc. Dans notre société moderne, non seulement ce lien sacré a disparu, mais toute dimension symbolique également, ne laissant place qu'à une appréhension purement utilitariste et objectiviste de notre rapport à la nourriture et à l'animal. Alors que l'association L214 ne cesse de révéler les conditions innommables de l'élevage et de l'abattage industriel, la frontière avec la barbarie se brouille. Et la crise de la vache folle était venue ajouter d'ailleurs l'élément symbolique qui a contribué au trouble. À cause du régime alimentaire carnivore que nous avons imposé à un herbivore, souligne Monder Kilani, nous redécouvrons le lien secret, donc symbolique, qui lie le mangeur à ce qu'il mange. Dans le cas particulier de la vache rendue carnivore et cannibale quand elle mange ses semblables, nous nous imaginons aussi cannibales. Dans une série d'articles publiés à l'époque de cette crise et rassemblés sous le titre « Nous sommes tous des cannibales », Claude Lévi-Strauss écrivait ceci « Un jour viendra où l'idée que pour se nourrir les hommes du passé élevaient et massacraient des êtres vivants et exposaient complaisamment leur chair en lambeaux dans des vitrines inspirera la même répulsion qu'aux voyageurs du XVIe ou du XVIIe siècle les repas cannibales des sauvages américains, océaniens ou africains. Les stocks de farine animale sont désormais écoulés dans la pisciculture, comme en a décidé la Commission européenne. Mais on peut douter, avec l'anthropologue, de la pertinence d'un système alimentaire qui repose à ce point sur la production à grande échelle de viande sur pâte, sachant qu'aux États-Unis, par exemple, les deux tiers des céréales produites servent à nourrir le bétail, une dangereuse concurrence faite à l'alimentation humaine. Antoine Perrault recevait il y a peu pour Mediapart les philosophes Florence Burga et Corinne Peluchon, engagées dans la défense de la cause animale. Toutes les deux explorent cet enjeu de société que nous n'avons pas toujours vu venir, explique-t-il en préambule, ce que le poète et philosophe Jean-Christophe Bailly a pu appeler, en allant au-devant de leur silence, le parti pris des animaux. Depuis la fin du siècle dernier, émerge un courant de pensée antispéciste, posant que les espèces humaines méritent le même respect que l'espèce humaine. Nous partageons l'ADN à 99% avec le chimpanzé et à 80% avec le cheval, et notre génome nous apparente à ces époques reculées d'avant l'agriculture ou à travers la chasse et la cueillette. Notre rapport à la nature était intense et solidaire. C'est ce que rappelle Paul Shepard dans un livre fondateur publié aux États-Unis en 1996, « Nous n'avons qu'une seule terre ». Selon le philosophe de l'écologie, c'est notamment au contact des animaux sauvages que s'est formée notre intelligence supérieure. Car à l'échelle de l'évolution, si les grands mammifères sont les mieux dotés, c'est parce que leur activité principale a développé des compétences complexes, qu'ils soient herbivores ou carnassiers, proie potentielle ou prédateur, les dynamiques de la fuite comme de la poursuite étant de grands sculpteurs de cerveau. Or, l'homme est omnivore et tout à la fois prédateur et proie possible. L'acquisition de cette double compétence l'aurait naturellement placé au sommet en matière cérébrale et on peut imaginer tout ce que cet apprentissage a dû à l'observation attentive des animaux ainsi qu'à la découverte à travers la chasse et la consommation des ressemblances troublantes entre ces vivants, humains et non humains. En ouvrant le corps des animaux pour les manger, les analogies physiologiques ont dû sauter aux yeux et à force de les traquer, de les tuer et de les avaler, les hommes ont fait progresser leur connaissance des animaux ainsi qu'un puissant imaginaire qu'on retrouve dans les mythes, les contes populaires et les fables.